Je suis en compagnie de Patrick Deville. Bonjour. Nous parlons de Fenua, votre nouveau livre qui sort chez Fiction et Compagnie aux éditions du Seuil. Fenua commence ainsi. C'est une photographie du 15 août 1860. Il note ça dans un carnet, Gustave. Le procédé est nouveau, qui permet plusieurs tirages d'une même prise sur papier ciré sec. Cette image est la première de Tahiti à n'être ni du dessin, ni de l'aquarelle, ni de la peinture de chevalet. Sa composition, cependant, est celle d'un tableau. Et déjà, par cette introduction, eh bien, beaucoup nous est dit de ce qui va se passer, Patrick Deville, ce qui va se jouer en cet endroit-là.
Oui, c'était une... Quand j'ai commencé à travailler, donc il y a longtemps, sur ce livre, c'était un cadeau pour moi de découvrir, puisque tous ces livres commencent en cette fatidique année 1860 jusqu'à aujourd'hui, que la première photographie de Tahiti avait été prise en cette année-là, de 1860, alors, qui plus est un 15 août, puisque le 15 août, enfin je le mentionne ailleurs, est l'une des trois dates annuelles où je m'enferme dans le noir pour faire un peu le point. Et il y a quelque chose sur la photographie tout au long du livre par la suite. Il y a cette interrogation sur ce que c'est que la photographie. Comme une interrogation sur ce que c'est que le tableau de peinture également, avec Gauguin plus loin. Donc c'était pour moi capital de commencer sur cette image, qui est la première image de Tahiti, un peu pour le but, un peu comme partout dans le monde, au moment où apparaît la photographie, c'était de montrer que Tahiti existait vraiment. Et c'est cet adjectif « vraiment », puisque très peu de personnes en Europe avaient vu ces îles depuis un siècle. C'est un siècle après les premières arrivées de Bougainville, de Cook. Il y avait eu des tableaux, des dessins, des aquarelles. Et puis voilà que ce jeune médecin, enfin on disait alors chirurgien de marine, Gustave Viau, commande un matériel photographique. Donc ce sont des calotypes, 24 ont été conservés, qui ont été exposés ensuite au Musée de l'Homme, qui sont toujours dans les collections et qu'on peut voir. Voilà, c'était très important de commencer avec cette photographie, avant d'en venir à la peinture.
Avant d'en venir à la peinture, effectivement. Pouvez-vous, Patrick Deville, nous expliquer ce titre, Fenua ? Car ce nom me semble bien méconnu. Qu'est-ce que le Fenua ?
Oui, le Fenua, c'est un mot, ça signifie tout simplement le pays, avec un P majuscule. Pour les Polynésiens, le Fenua, c'est le pays. Donc c'est un mot très très commun sur place, enfin les pages locales de la dépêche de Tahiti sont intitulées Fenua. Il y a dans les supermarchés des produits made in Fenua. Voilà, c'est un mot qu'on entend plusieurs fois par jour. Enfin, c'est un mot très très. Ainsi que le mot pays, puisque la traduction est pays avec un P majuscule. Et donc la Polynésie française aujourd'hui est un pays. Donc il y a parallèlement, c'est aussi l'un des sujets du livre, le pays avec un P majuscule. Et l'État, avec un E majuscule, puisque la Polynésie française, comme le nom l'indique, à la fois jouit d'une très grande autonomie économique et politique, celle du pays, et puis également dépend de l'État qui est à Paris.
Pourquoi, dans votre projet Abracadabra, dont c'est le 8e tome, était-il important d'y faire étape ? Je rappelle que Amazonia, le septième tome, avait permis la traversée par le fleuve Amazone de l'Atlantique au Pacifique. Si bien qu'à la fin d'Amazonia, vous vous trouvez au Pacifique. Et alors, je me suis posé la question de pourquoi il était important pour vous de consacrer un tome complet de votre projet à Abracadabra au Fenua, et particulièrement à Tahiti.
Oui, la progression géographique inexorable est prévue de très longue date. Et donc là, il s'agit du début du deuxième tour du monde, après ce demi-tour en français qui était tabac-tabac, après le premier tour du monde, tabac-tabac était un demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Le premier livre de ce deuxième tour était donc Amazonia, c'est-à-dire Brésil, Brésil, Pérou, Équateur, jusqu'aux Galapagos, en remontant le fleuve Amazon, en franchissant la cordillère des Andes, puis en traversant une partie du Pacifique jusqu'aux Galapagos, qui appartiennent à l'Équateur. Et donc Amazonia se termine sur la plage de Tortuga Bay, aux Galapagos, où, avec mon fils, nous sommes debout sur la plage sous une pluie fine, et nous imaginons devant nous partir à la voile, quitter à la voile cette île, cet archipel des Galapagos, le navire Beagle du capitaine Fitzroy, à bord duquel voyage le naturaliste Charles Darwin. Et quand le Beagle quitte les Galapagos, il met le cap sur la Polynésie, et la prochaine escale, à plus de 5000 km, je crois, enfin il faudrait voir en 1000 marins, c'est Papeete, la capitale de Tahiti. Donc voilà, j'ai suivi moi aussi cette ligne pour faire cette nouvelle escale, la huitième, en Polynésie, c'est-à-dire à Tahiti qui est l'île principale, et puis les cinq archipels, donc des îles sous le vent, des Tuamotu, des Marquises, des îles du vent et des Australes.
On est accompagné avec vous par Gustave Viau. C'est Gustave Viau qui nous introduit à Tahiti. Il est chirurgien de marine, il est photographe. Pouvez-vous nous parler de son parcours assez bref, puisqu'il est décédé assez jeune, à 28 ans.
Oui, bref et tragique. Hein. C'est un marin protestant, donc de la Charente. Bon, tous ses livres sont toujours très liés à l'école navale de Brest. Et donc, lui devient chirurgien de marine. C'est sa première affectation. Il met des mois à la rejoindre, évidemment. Il est affecté à Papeete, à l'hôpital de Papeete à Tahiti. Il reste 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, il est évacué sanitaire sur la France. Il met là encore assez longtemps à rentrer. Il est malade. On lui octroie 3 mois de convalescence. Après quoi, il est affecté dans l'actuel Vietnam, enfin tout au sud. C'est-à-dire ce qui était à l'époque la colonie française de Cochinchine. Et encore plus que cela, il est affecté sur l'île de Pulau Condor, au large du delta du Mékong, tout au sud, où on lui demande, avec un autre médecin, d'essayer de créer un hôpital. L'île est absolument infectée, etc. On le remonte trop tard vers Saïgon. On le met à l'intérieur d'un navire et il meurt en mer à 28 ans. Et très longtemps après, c'est-à-dire que comme ça se faisait à l'époque, on l'immerge, on le plonge mort dans l'océan et on le laisse descendre et se faire bouffer par les poissons. Et à l'époque, on ne sait pas qu'en fait, il ne descend pas si profond que ça, parce qu'il y a justement là, c'est dans le détroit de Malacca, le sommet d'une chaîne montagneuse sous-marine, auquel on donnera à la fin du XXe siècle le nom de Viau Ridge en son honneur. Mais surtout, alors bon, c'est tragique, mais c'est d'une part le premier photographe de Tahiti, comme on l'a dit, et puis d'autre part, il a un jeune frère qui lui reste en Charente, qui est en correspondance avec lui, qui porte une affection, une admiration immense pour ce grand frère qui finalement disparaît et ne revient jamais. Et ce petit frère, Julien Viau, va désobéir au grand frère et va à son tour devenir marin, faire la navale à Brest, et va partir sur les traces de son grand frère disparu. Et donc je voulais refaire ce parcours géographique, c'est peut-être la plus longue horizontale de ce livre, puisqu'il embarque à Valparaiso, au Chili, le jeune Julien Viau, à destination également de Tahiti, où il est affecté, avec les étapes sur lesquelles je l'ai suivi, la première de l'île de Pâques, qui est la Polynésie chilienne, puis de l'île de Pâques à l'archipel des Marquises, sur l'île de Nuku'iwa, puis enfin Tahiti. Et là, ce jeune frère, sur les traces de son grand frère disparu, commence à devenir écrivain, commence à prendre des notes, va écrire tout cela, et puis va écrire un livre qu'il intitulera Rarahu, du nom d'une vainée qui aurait vécu avec son frère, qui peut-être aurait eu des enfants, mais c'est faux. Et en France, ça paraît en revue, en feuilleton, et l'éditrice de la revue refuse le titre de Rarahu, et elle choisit, elle, l'éditrice, d'appeler ça le mariage de Loti. Et finalement, ce jeune Julien Viau va décider par la suite de garder ce pseudonyme de Loti et d'inventer le prénom de Pierre et deviendra Pierre Loti. Voilà. Donc ça, c'est cette histoire des deux frères qui est un peu au début du livre.
Cette histoire des deux frères est pour parler de Gustave Viau et notamment de Henri Bizot, qui est un autre médecin de marine, quand ils vont être affectés en Asie en 1862. Vous avez cette belle formule pour un peu qualifier ce qui se passait à cette époque pour ces jeunes hommes, qui étaient tout de même qui étaient médecins de marine, c'était pas n'importe qui. C'était, donc on imagine, des personnes quand même, dont les familles étaient installées pour pouvoir faire de telles études. Et vous écrivez, ces jeunes hommes furent chair à colonie, comme il y eut de la chair à canon, envoyés aux grands abattoirs de la dengue et du choléra, du typhus et de la bilharzise. C'est une très belle formule pour finalement la réalité de ces jeunes hommes qui étaient confrontés à des maladies tropicales.
Oui, cette terrible époque de la colonisation, évidemment, a fait des ravages énormes dans les populations colonisées. Aux Marquises, par exemple, après les premiers contacts, la population quasiment disparaît par, justement, le manque d'immunité, c'est-à-dire attrape des maladies qui pour lesquelles elle n'avait pas les anticorps. Les populations des Marquises disparaissent, mais enfin, si c'était le cas en Amazonie également, au moment des premiers contacts avec les Occidentaux, mais de l'autre côté, ça a été aussi une hécatombe parmi les marins, les militaires qu'on a envoyés installer ces colonies. Et en ce qui concerne ce jeune médecin, et justement dans ce qui plus tard deviendra le Vietnam, mais qui à l'époque est donc à la fois ces trois, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine, il meurt de ces maladies avant, peu de temps avant, qu'on envoie les jeunes pasteuriens, alors là ça renvoie à peste et choléra, qu'on envoie Calmette créer l'Institut Pasteur de Saïgon, et puis Yersin, bien sûr, à Nha Trang, qui va vaincre la peste. C'est cette même histoire, en fait, de ces hécatombes coloniales.
Alors, Gustave Viau, je vais revenir à ce que vous avez écrit, en fait. Vous écrivez, si son frère Gustave, en parlant de Gustave Viau, avait offert aux Européens 20 ans plus tôt les premiers clichés photographiques de Tahiti, Julien, donc Pierre Loti, avec ce premier roman tahitien, inscrivait dans la littérature, donc celui dont vous avez parlé, ce premier roman tahitien, inscrivait dans la littérature une image de l'île qui n'était pas exempte de clichés littéraires. Mais sans Loti, pas de Gauguin plus tard à Tahiti. Parce que vous écrivez à un autre moment, après un siècle de récits géographiques et scientifiques écrits par des capitaines et des savants, c'est l'invention d'un romantisme tahitien des paysages inaccessibles et rêvés, et cela grâce à Pierre Loti. Si bien qu'on pourrait très bien facilement faire ce lien entre ces deux frères, le premier à avoir photographié de manière objective l'île de Tahiti, et Pierre Loti, celui qui a permis à des générations de lecteurs, via son livre, une sorte de romantisme tahitien des paysages inaccessibles et rêvés, comme vous l'écrivez si bien.
Oui, bien sûr, on lui a beaucoup reproché cet exotisme. Il n'empêche qu'il a inscrit, puisque là encore, très peu de personnes se déplaçaient, n'effectuaient le voyage. Et donc il a introduit Tahiti dans la littérature, bon, qui était déjà là depuis évidemment un siècle avec les récits des capitaines, le voyage autour du monde de Bougainville, le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Mais là, avec cette histoire, qui est une histoire d'amour, une bluette, il introduit dans la littérature un rêve tahitien qui va... et donc, quand j'écris sans le type de Gauguin à Tahiti, en effet, mais ça ne s'est pas fait directement parce que c'est Van Gogh qui va devenir un lecteur extrêmement assidu de Pierre Loti, et c'est Van Gogh qui va faire découvrir à Arles Loti à Gauguin. Et puis ensuite il y a un peu de hasard parce que Gauguin, après l'épisode qu'on sait, la séparation avec Van Gogh, cherche où partir, enfin plutôt où repartir, parce qu'il a déjà beaucoup voyagé, Gauguin. Enfin, il a passé son enfance à Lima au Pérou, il est allé donner des coups de pioche dans le canal de Panama sur le chantier de Ferdinand de Lesseps, il a peint en Martinique. Mais donc il cherche où repartir, il est à Pont-Aven, il est en Bretagne, il hésite sur beaucoup d'endroits, enfin il essaie d'aller au Tonkin, il pense à Madagascar, et puis finalement, voilà, ce sont ces lectures de Loti recommandées par Van Gogh qui lui font choisir la Polynésie et qui l'envoie à Tahiti. Il y a donc une ligne assez directe en fait, de Loti à Gauguin, et avant cela du frère aîné Gustavio qui lui prend la première photographie, alors que Gauguin évidemment va bouleverser encore davantage que Loti n'avait bouleversé l'image en France de Tahiti. Gauguin va complètement bouleverser cette image par la peinture, par les toiles qu'il commence à envoyer depuis Tahiti, où il reste 10 ans, enfin avec un aller-retour. Et c'est vrai que maintenant on associe bien davantage Gauguin aux marquises, mais finalement c'est vraiment la fin de la vie de Gauguin, c'est quelques mois les marquises. On l'associe davantage aux marquises parce qu'il y repose, mais le grand séjour de Gauguin c'est Tahiti.
Il y a un fil qui est tissé dans votre livre, Patrick Deville dans Fénua, qui est un peu cette correspondance, ce jeu avec une réflexion sur le réel, puisque la photographie serait le réel objectif, alors que la peinture serait le sublime, serait un apport d'imaginaire, d'esthétique, et ne serait pas véritablement le réel. Vous tenez là une réflexion entre justement Gustavio, le photographe, chirurgien de marine, et donc quelqu'un d'assez, on va dire, on peut imaginer, d'assez droit, rigide, tout le contraire d'un artiste, et puis Gauguin, qui, avec une sorte de réputation, celui d'artiste bohème, même si vous déconstruisez le mythe, hein, puisque vous expliquez bien dans Fénua à quel point il n'était pas tout à fait... enfin, c'était pas non plus l'exact contraire de l'artiste bohème, mais en même temps il avait des moyens, et quand il arrive à Tahiti il a quand même des moyens de subsistance bien supérieurs aux Européens et aux Français qui y vivent. Donc vous déconstruisez le mythe un peu du clochard céleste, il avait véritablement des moyens sur place, mais vous tenez là un fil conducteur pour réfléchir sur cette question de réel à propos de lointain, puisqu'on peut imaginer que pour nous métropolitains Tahiti c'est très très loin, et que si on n'y va pas, on ne le connaît, en tout cas on en connaît de cette époque que à travers la photographie de Gustavio, à travers les récits de Pierre Loti ou à travers la peinture de Gauguin.
Oui, le vrai sujet du livre, me semble-t-il, s'il y a un sujet, en tout cas l'interrogation, c'est en effet le réel. Le réel avec voilà, une majuscule. Bon, c'est Ségalène, ensuite, qui écrit Les Immémoriaux. Ségalène qui donc est sur les traces, lui, de Gauguin, qui est chargé, lui aussi est médecin de marine, il est chargé, 3 mois après la mort de Gauguin, à Atuana, sur l'île d'Ivaoa, de rapporter à Papeete ce qui peut être vendable. Et il écrit, il lit les carnets de Gauguin, et il écrit Les Immémoriaux. C'est l'anti-Loti, il déteste Loti. Et justement, il cherche le réel. Il cherche pour la première fois en littérature à dire le réel de ces îles. Et il y a cette interrogation sur, en effet, et c'est cet adjectif, cet adverbe que j'utilisais tout à l'heure de vraiment. Bon, il se trouve que la Polynésie et l'imaginaire des Polynésiens est tout empli de fantômes. Et que ce livre est un livre de fantômes, et est un livre sur les fantômes. D'abord, j'y suis seul et longtemps. J'avais déjà séjourné pour préparer ce livre, mais là, pendant des semaines, des mois, je suis seul dans une cabane, avec ces fantômes que sont les peintres, les écrivains, qui sont avec moi. J'ai emporté ces livres, je les relis, j'ai en tête évidemment les tableaux de Gauguin, et puis lorsqu'on est seul, on vit entouré de fantômes, enfin moins on voit de vivants, plus les morts vous assaillent, c'est-à-dire à la fois mes propres morts, les gens qui autour de moi ont disparu. Il y a les rêves de la nuit, il y a la solitude pendant longtemps permet cela, l'apparition de nos propres fantômes, et puis des fantômes de la littérature, de ces artistes, de ces voyageurs qui n'existent plus. Il y a cette interrogation sur le statut de l'existence et de l'existence en effet des personnages peints ou photographiés, et comme des paysages peints ou photographiés. C'est ce statut très ambigu de la photographie. Un personnage photographié n'existe pas, entre guillemets, mais en même temps, il n'est pas rien. C'est-à-dire que ce qui est photographié nage un peu entre l'être et le non-être. Comme dans les songes, comme dans les rêves. Et ces images... Alors il y a cette idée, ce fil sur la photographie. Quand je suis sur l'île de Pâques, je photographie avec mon smartphone, je ne prends jamais sinon de photographie, juste documentaire pour préparer les livres. Mais je photographie la boutique Kodak à l'abandon, dans la petite capitale de l'île, à Rangaroa. Et que cette boutique Kodak fût à l'abandon en 2020 n'est pas étonnant. Elles sont à l'abandon partout dans le monde, puisque les procédés techniques ont évolué, que ces milliards de photographies prises par les touristes en Polynésie le sont avec des smartphones, ou en tout cas avec des appareils photographiques qui utilisent le numérique. Il n'y a plus de pellicule qu'on apporte à développer. Parce que là, il y avait encore cette publicité Kodak Revelados pour apporter les pellicules à développer à Rangaroa. Et il y a tout au long... Alors ça, c'est ce qui concerne l'histoire de la photographie. Depuis les calotypes de Gustavio, on ne peut pas se défaire de cette idée que la photographie saisirait enfin le réel et qu'à chaque progrès technique, on croirait encore naïvement que cette fois-ci c'est bon, on a absolument le réel. Et alors qu'il faut bien que, c'est-à-dire ces photographies-là, numériques, couleurs, etc., qu'on prend aujourd'hui et qui nous semblent montrer le vraiment, le réel, elles seront un jour aussi démodées, nostalgiques, que les petites photographies noir et blanc à bord dentelées des années 30 et 40 du XXe siècle. Il n'y a aucune raison pour que ce processus s'arrête. Alors que, de l'autre côté, la peinture, et je mentionne un entretien que donne, qu'accorde Gauguin à un journaliste sur le... qui lui reproche, évidemment, c'est un peu la tarte à la crème, évidemment. Un journaliste l'interroge et lui demande encore une fois pourquoi il peint des chiens rouges, des arbres bleus, des chiens bleus, des arbres rouges, des rivières oranges, parce que c'est pas ça, parce que c'est pas vrai. Et Gauguin répond, voilà, très justement, au moment où il répond cela, il n'y a pas encore la photographie couleur. Mais il sait bien, tout le monde sait bien qu'elle sera inventée d'ici peu, parce que le procédé de Louis Lumière pour la photographie couleur, ce sera 1904, c'est-à-dire un an après la mort de Gauguin. Mais enfin, Gauguin sait bien que ça va arriver, tout le monde sait bien que ça va arriver. Et donc il répond, mais pourquoi si... il y aura bientôt cette petite boîte magique pour prendre les photographies en couleur de la réalité, entre guillemets. À ce moment-là, ça n'est pas ça, la peinture. La peinture, son but est de révéler poétiquement, enfin comme la littérature, un réel au-delà de ce qui semble être le réel et qui ne l'est pas vraiment. Voilà. En fait, je crois que c'est... je crois que c'est le sujet du livre.
En tout cas, on peut effectivement le prendre ainsi, parce qu'il y a suffisamment de pastilles comme ça dans votre livre pour le comprendre ainsi, ne serait-ce que dans votre début, votre installation là-bas. Vous écrivez vos conditions d'existence afin de pouvoir préparer ce livre-là, et vous avez cette belle formule, et finalement on y est dans cette question du réel, parce que votre formule, vous vous y installez pas là-bas comme un touriste, vous n'avez effectivement pas besoin de votre smartphone. Vous arrivez là-bas et vous avez cette belle formule de dire « je souhaitais essayer d'y comprendre un peu quelque chose ». Ça, c'est la formule magique. Je souhaitais essayer d'y comprendre un peu quelque chose. Et pour ce faire, bien entendu, vous y installez au sud de Papeete, vous y restez longtemps. Dans votre cabane, on imagine qu'il y a une vue. Enfin, mais surtout dans votre cabane, vous y avez emmené une bibliothèque. Parce que afin de mieux comprendre un peu quelque chose, comme vous le dites, c'est-à-dire en gros, de traiter avec... le réel, et le réel, c'est aussi faire avec tout le passé, toute la mythologie, toute la fiction. Eh bien, vous emmenez, c'est votre méthode, en fait, c'est votre méthode d'écriture, tout votre projet abracadabra. Vous vous déplacez avec une bibliothèque. Et alors là, dans cette bibliothèque, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous écrivez une bibliothèque qui assemblait les ouvrages de beaucoup qui avaient écrit sur les îles. Ouvrages que j'avais classés de manière à les lire dans l'ordre chronologique de leur écriture. Ça, c'est une bonne méthode. Quels étaient-ils donc ces livres? Quelle était cette bibliothèque? Et j'ai envie aussi de vous demander de décrire un peu votre cabane, la vue que vous y avez.
Alors, bon, s'agissant de la cabane, elle était donc à Punaouya, c'est à quelques kilomètres au sud de Papeete, sur un jardin... descendant en pente herbeuse jusqu'à l'estran boueux avec des trous de crabe, et de là un petit ponton sur le lagon menait un fauteuil unique donc posé sur le lagon et en face à quelques centaines de mètres la barrière des brisants, le trait blanc des brisants et un à main droite la silhouette imposante de l'île sœur de Moréa. Donc ça, c'est pour le lieu. Et pour cette bibliothèque, même si ces livres, c'est 1860 aujourd'hui, il me semblait, et puis j'avais cette curiosité, de lire de 1760, enfin 1768-69, les premières arrivées, c'est-à-dire un siècle avant Gustave Viau, donc les grands voyageurs, Cook, Bougainville, etc. Et puis de remonter comme cela le temps, donc ce sont des ouvrages savants pendant longtemps, puisque à bord de tous ces navires, il y avait des botanistes, des astronomes, tous les savants embarqués. Et puis après, l'apparition de la littérature, enfin le loti, etc., jusqu'à 2020 avec les romans polynésiens qui paraissent sur place chez cet éditeur au vent des îles à Papeete. Et donc avec deux lignes, ça je l'ai découvert progressivement dans toutes ces lectures, C'est-à-dire qu'il y a la ligne, puisque toute l'histoire de la Polynésie, ce sont les querelles coloniales entre la France et l'Angleterre, et que le rêve polynésien a été partagé par les Français et les Anglais. Principalement, les Allemands sont arrivés un peu plus tard. Mais donc, dans la littérature, il y a réellement la ligne française et la ligne anglaise avec très peu d'intersections. D'abord parce que peu de Français lisent l'anglais, peu d'anglais lisent le français, que chacun est dans sa littérature nationale. Et donc, du côté de ceux qui écrivent en anglais, ça commence évidemment avec Herman Melville. Melville qui, bien avant même de devenir écrivain, est prisonnier à Papeete, à Tahiti, après qu'il a déserté d'un baleinier pendant la guerre entre la France et les Tahitiens, et il s'évade de cette prison. Mais ensuite, il écrit ses deux romans tahitiens, bien avant d'écrire Moby Dick. Et puis, à la suite de Melville, il y a Stevenson qui vient là, l'écrivain écossais, sur les pas de Melville. Il y a ensuite Jack London qui vient sur les pas de Stevenson, venant sur les pas de Melville. Et cette ligne, comme ça, avec très peu d'intersections, c'est un peu la même chose pour la littérature française avec ceux qui viennent sur les pas de Gauguin, sur les pas de Loti, plus tard sur les pas de Ségalène, voilà, toute cette ligne de la littérature, de la peinture. Et c'était intéressant, enfin, me semblait-il, en tout cas, c'était riche de les lire ou relire, parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup de livres que j'ai relus, enfin, par exemple, L'île au trésor de Stevenson, mais de les relire justement chronologiquement en sachant que eux aussi avaient lu leur devancier et avançaient sur les traces de leur devancier, et moi j'avançais sur les traces de ceux qui avançaient sur les traces, voilà.
Oui, mais c'est une très belle formule. Ce que vous écrivez, je peux le résumer, c'est la page 213, en fait, le premier paragraphe qui est super, parce qu'on comprend bien ces deux lignes, on comprend bien surtout que les Français ne lisent pas les Anglais ne lisent pas les Français, enfin, par Van Gogh qui lisait en anglais. Et ce qui est étonnant, c'est que vous lisez les deux langues. Et donc, je vais lire le passage. Si Ségalène suivait ici les traces de Gauguin qui suivait celles de Loti, les écrivains de langue anglaise suivaient celles de Stevenson qui suivaient ici celles de Melville, et je découvrais dans la cabane que ces deux lignes, l'anglaise et la française, au fil du temps et des livres, demeuraient parallèles à de rares exceptions près. Une brève mention de Loti chez Stevenson, le roman de Morgan sur Gauguin, les éloges de Melville chez Gerbeau. Pour résumer du coup votre propos, Patrick Deville. Et alors quelque chose aussi que l'on découvre, puisque vous avez lu aussi à partir du milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les premiers explorateurs européens de l'île, vous écrivez que, et donc on pense nous principalement à Bougainville, enfin beaucoup de lycéens étudient toujours le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, qui fait un peu partie des lectures obligatoires au lycée, donc on a vraiment ça en tête. Vous écrivez pour les Européens, donc aussi bien les Anglais que les Français principalement, cette île de Tahiti serait la première saisie par la science, un laboratoire philosophique. Effectivement, pour les philosophes des Lumières, on pense vraiment à ce supplément au voyage de Bougainville, rempli d'une forme de pas de mythologie, mais ils ne disposaient pas, bien entendu, de toutes les informations que nous disposons, que vous disposez, et si bien qu'à un moment donné, vous rétablissez ces données, vous écrivez « Non seulement ces hommes, donc en parlant des Tahitiens, ne vivent pas depuis des temps immémoriaux dans une nature édénique, mais dans un paysage qu'ils ont façonné depuis peu, ils ne vivent pas non plus en paix. » Ça modifie complètement ces histoires-là qu'on apprend des philosophes des Lumières.
Oui, c'était surtout... il se trouve que ça, c'était au moment des philosophes de l'état de nature. Et donc, il y a eu... c'est-à-dire, c'était Rousseau, Diderot, et c'était le moment où, dans la philosophie, on pensait cet état de nature d'avant la civilisation. Et lorsque paraissent les premiers récits de voyage à Tahiti, les philosophes s'emparent de ces textes en pensant que c'est un laboratoire où on peut observer des hommes à l'état de nature, ce qui évidemment est absolument faux. Et puis scientifiquement, évidemment, on ne peut pas savoir, puisque on mettra longtemps aussi à traduire, enfin à comprendre, à former des interprètes pour savoir. Et puisque il n'y avait pas de langue écrite à Tahiti, en fait, on pense à ces hommes à l'état de nature. On découvrira, on mettra longtemps à découvrir qu'en fait, le peuplement de ces îles est récent. Enfin, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, il est très très récent. Que tout cela est très récent en fait. Enfin, que ces îles n'étaient pas habitables avant peut-être le 9e ou 10e siècle de l'ère chrétienne, qu'elles ont été peuplées par des sauts successifs d'aller-retour de populations en grandes pirogues qui venaient, etc., planter et faire de l'élevage suffisamment, un petit groupe, avant qu'un peuplement de colonisation puisse s'installer, que tout ça est assez récent, et que cette nature que Bougainville et les autres croient vierge et édénique, en fait, est une nature déjà très travaillée par les hommes, plantée avec des fruitiers, etc., et avec une agriculture, avec des techniques de pêche extrêmement élaborées, avec des hameçons en nacre, etc., puisqu'il n'y a pas de métaux. Et donc, enfin, dès le début, il y a ce malentendu, en fait, entre ces deux civilisations occidentales et polynésiennes.
Et alors, venons-en à Paul Gauguin, parce que vous utilisez toujours des biais pour nous faire aborder ce grand illustre de Paul Gauguin sur l'île. Bien entendu, vous êtes passé par Pierre Loti, que Gauguin a lu via Van Gogh. Mais avant de nous le faire accéder à l'île, vous passez par un Vietnamien qui s'appelle Ki Dong, et c'est par lui que peu à peu vous nous racontez Gauguin que l'on attend dans votre livre. Il y a toujours une manière de faire biais, de faire déviation, et de passer par Ki Dong, vous nous racontez aussi une histoire, notamment des Chinois. Alors, Ki Dong n'est pas chinois, mais une histoire des Chinois qui sont venus, qui ont été emmenés sur l'île.
Oui, alors, ce sont deux histoires différentes. La première arrivée des Chinois, en effet, elle est liée à la guerre civile aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que la guerre civile entraîne... Enfin, le coton n'est plus exporté, tout simplement. Quand la guerre civile entre les Yankees et les sudistes... Et donc un Écossais a l'idée, enfin cherche un peu sur la planète où il pourrait produire du coton, décide de créer une très grande plantation à Tahiti. Ça sera la première et la dernière tentative d'industrialisation de l'île, et c'est donc 1860. Mais il a ce problème de main d'œuvre et il va chercher un contingent d'un bon millier de Chinois à Canton, de coulisses comme on disait à l'époque, pour produire du coton, du café, du rhum, enfin de la canne à sucre. Et puis c'est la fin de la guerre civile aux États-Unis. Le coton, à nouveau, est cultivé. Tahiti est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop cher, il est ruiné. Et il n'a pas les moyens, de respecter les contrats des Chinois qui devaient être, en fin de contrat, rapatriés en Chine. Et donc, puis la France s'en lave les mains, enfin le gouverneur français s'en lave les mains, et donc ces Chinois restent là. Et c'est l'origine, il y a énormément de Chinois, c'est le premier peuplement chinois. Quant à Ki Dong, lui, il n'est pas chinois, mais c'est une belle découverte, c'est ce goût de la curiosité. J'avais découvert l'existence de Ki Dong lors d'un premier séjour, 8 ans plus tôt, et ensuite j'avais enquêté au Vietnam, enfin j'avais demandé à des amis chercheurs à l'école française d'Extrême-Orient de Saïgon de chercher des archives et ce qu'il pouvait y avoir sur Ki Dong, qui n'est pas son nom, Ki Dong ça signifie l'enfant merveilleux, c'est donc un enfant qu'on croyait doté de pouvoirs un peu surnaturels. Et qui commençait à rassembler autour de lui, à son corps défendant, il avait 10 ans, énormément de, comment, de militants anti-coloniaux contre la France. Et donc, comme il était très brillant et qu'il, en fait, c'était un emmerdeur dans la colonie, la France a décidé de l'envoyer au lycée d'Alger, où il a fait de brillantes études. Il est revenu au, enfin, pas au Vietnam, qui n'existait pas encore, mais au, il est revenu en Annam et au Tonkin. À nouveau, ça a créé des troubles. Et on a décidé cette fois de l'exiler beaucoup plus loin, c'est-à-dire à Tahiti. Enfin là, si je fais une parenthèse, en plus, c'est faux parce que de l'exiler beaucoup plus loin, c'est ce qui montre que les autorités coloniales françaises avaient, mais comme nous tous en Europe, avaient la projection Mercator du planisphère en tête. C'est-à-dire que pour nous, Saïgon est très loin... vers l'est, et Tahiti très loin vers l'ouest, alors qu'en fait, en l'envoyant le plus loin possible de Paris, c'est-à-dire à Tahiti, on le renvoyait paradoxalement beaucoup plus près de beaucoup plus près du Vietnam. Mais enfin voilà, il est déporté politique à Tahiti. À Tahiti, c'est pareil, le gouverneur pense qu'il pourrait, comme le fit Ho Chi Minh bien plus tard, embarquer clandestinement sur un navire et s'en aller. Et donc on l'envoie aux Marquises, beaucoup plus loin, et même pas sur l'île principale de Nuku'iwa, mais sur l'île plus petite de Iwawa, encore moins accessible, et on en fait là-bas un infirmier, une espèce d'agent sanitaire, parce qu'il est, il est compétent, il est diplômé, et le hasard fera qu'il sera l'infirmier du malade Paul Gauguin, et qu'il va devenir très proche de lui, qu'il va écrire une pièce de théâtre en alexandrin français versifié, une comédie, Les amours d'un vieux peintre aux Marquises. Il se moque un peu de Gauguin, qu'il va lui-même peindre un peu avec Gauguin, dans le faré de Gauguin à Atouana, et puis qu'il va être l'un des derniers à voir Gauguin jusqu'à la mort de celui-ci.
Et alors, avec cette arrivée de Gauguin dans votre narration, dans votre livre, Patrick Deville, il y a soudain toute la Bretagne, il y a Van Gogh, il y a Rimbaud, qui sont restitués en leur époque et sans leur légende. Vous avez cette formule, c'est le milieu de l'année 1890, depuis mon tapis volant, à une altitude satellitaire, je localisais tout en bas ma petite bande de glorieux vagabonds. Il faut peut-être que j'explique la formule tapis volant. Elle est reprise dans un beau livre d'entretien qui sort en même temps que Fénois, Le tapis volant de Patrick Deville, entretien sur l'écriture avec Pascaline David, qui sort également aux éditions du Seuil. Et là, on comprend que le tapis volant, c'est vous, en fait, dans vos deux tours du monde. Vous êtes embarqué sur un tapis volant et avec présence, dans ces cas, une sorte d'imaginaire avec vous embarqué. Et donc, vous écrivez après, j'ai l'impression, une sorte de. Vous êtes sur votre tapis volant, vous avez une altitude satellitaire, vous localisez cette petite bande de glorieux vagabonds, ce qui fait que vous arrivez à des jeux de concomitance, de correspondance temporelle entre plusieurs aventures. Je vous lis, ça sera plus clair. Un mois plus tard, en juin 1890, pendant que Rimbaud est à Harare, Brazza et Conrad naviguent sur le fleuve Congo, chacun à bord de son vapeur, pendant que Yersin embarque à Marseille pour son premier départ vers Saïgon. Un mois plus tard, en juillet 1890, Van Gogh se tue à Auvers-sur-Oise, et encore un mois plus tard, en août 1890, Stevenson, depuis l'Australie, écrit dans une lettre à Schwab qu'il a deux gros romans en train, Le trafiquant d'épaves et Pêcheur de perles. Il évoque avec nostalgie le souvenir de ses longs séjours en France. Vous arrivez juste par des correspondances temporelles à relier toutes ces aventures entre elles. Et ça serait aussi votre propre méthode narrative dans Fénois, mais aussi dans votre entreprise avec le projet Abracadabra, ces jeux de concomitance. Bien entendu, avec Fénois, c'est plutôt Gauguin qui va être central. Mais il y a toute cette galaxie autour auquel vous nous redonnez accès, en fait. Et surtout, j'insiste, sans leur légende.
Oui, bon, ce tapis volant, c'est celui de ma première lecture d'enfant. Depuis 60 ans, j'écris le tapis volant. C'est ce premier livre que j'ai lu seul au lazaret de Madain, dans l'hôpital psychiatrique. Et que ce livre qui revient de livre en livre et que je continue en quelque sorte cette enfance, ce petit Michel, qui avec cette formule abracadabra pouvait se déplacer partout sur la planète. Et depuis maintenant bien plus de 20 ans que j'ai commencé ce projet abracadabra, je traîne cette petite bande. Et bien sûr, depuis le temps, je sais où se trouve chacun d'entre eux. Donc je m'éloigne un peu avec ce tapis volant, je m'éloigne un peu de la planète, très haut. Et je vois sur la planète où se trouve tel mois de 1890, en l'occurrence, où se trouvent chacun d'entre eux. Gauguin et Van Gogh apparaissaient dans Tabataba dans un chapitre écrit à Charleville, où là j'étais sur les pas de Rimbaud, bien sûr, et Rimbaud est très présent dans Fénois. Alors que Rimbaud, il n'y a pas de rapport avec la Polynésie, mais il y a un rapport, bon si, il y a le rapport de partir, il y a le rapport chronologique, etc. Et puis il y a le fait que Gauguin, au moment où il est journaliste à Tahiti, enfin où il crée un petit journal, une espèce de canard enchaîné local, Le Sourire, Gauguin écrit sur Rimbaud. En prétendant qu'il fût son ami. Il faut prendre le terme ami au sens artistique et intellectuel. Gauguin a fréquenté Verlaine, mais pas Rimbaud. Et par contre, ils se croisent à quelques jours près sur le port de Marseille. Ça aussi, c'est pour ça que je n'écris pas de fiction. Voilà. Et on en parlions tout à l'heure, enfin, cette histoire de cette. Comment? Cette distinction entre la fiction et l'imagination. Dans ces romans, il n'y a pas de fiction, au sens où il n'y a pas de personnages inventés, d'événements inventés, mais bien sûr, il y a tout cet imaginaire de la littérature. Et ça me bouleverse de découvrir, parce que je suis très sensible aux éphémérides, aux dates que je mémorise, de découvrir que. À quelques jours près, Gauguin, qui embarque à Marseille, sur le port de Marseille, pour Tahiti, croise à quelques jours près Rimbaud qu'on descend de la civière du navire Amazone des compagnies maritimes avant qu'on ne l'ampute. Et qu'à quelques jours près, en effet, comme le prétend Gauguin, ils se seraient connus sur un quai, l'un prêt à être amputé sur une civière et l'autre partant avec ses bagages pour ce très grand départ. Et puis à la fin de sa vie, si Ségalène était arrivé un peu plus tôt, 3 mois plus tôt, Gauguin ne serait pas mort parce que Ségalène, chirurgien de marine lui-même, aurait ordonné cette amputation, on aurait coupé la jambe de Gauguin et il ne serait pas mort tout de suite, dès 1903, à Ivaoua. En tout cela, oui, il s'agit d'un imaginaire sans fiction. Voilà.
Patrick Deville, j'aimerais qu'on termine par la figure d'Herman Melville, pas très présent dans Fénois, mais vous avez cette belle formule. Vous écrivez que Melville découvre la vie polynésienne. Et, vous continuez ainsi, « Je voyais tout, mais n'y comprenais rien », écrira-t-il plus tard dans Taipi, son premier roman d'aventure sans fiction. Ça, cette formule est magique, quoi. Je relis. « Melville découvre la vie polynésienne. Je voyais tout, mais n'y comprenais rien », écrira-t-il plus tard dans Taipi, son premier roman d'aventure sans fiction. Là, on a votre projet. Le roman d'aventure sans fiction et surtout je voyais tout mais n'y comprenais rien, c'est votre grande affaire de réel. Ça fait pendant à votre propre formule à vous, Patrick Deville, je souhaitais essayer d'y comprendre un peu quelque chose. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus?
Oui, absolument, absolument. Sans ces deux. Ça a eu beaucoup de succès, les deux premiers livres de Melville, qui étaient le récit de son séjour, puisqu'il déserte, il est recueilli par les Taipi cannibales, donc il y avait un côté évidemment grande aventure. Ça a eu un très grand succès, mais il n'a jamais prétendu avoir compris de toute façon. C'est quasiment impossible. Enfin, bon, certains, c'est le métier d'être ethnologue, historien, etc. Mais je n'ai jamais eu la prétention d'essayer de comprendre quelque chose.
Merci beaucoup, Patrick Deville. Merci.